Bienvenue sur la chaîne Ambiance, Architecture, Urbanité, AAU.
Suite à sa présentation, Charlotte Goffet propose aux participants un atelier pour tester in situ ces petits instruments de mesure sensibles du vent. Ce qui suit est un rapide reportage aux alentours de la Massie, puis une mise en commun de l'expérience.
On peut comparer avec.
Et on peut le noter ou pas? Je sais pas trop comment le noter en fait.
Non, je pense que.
C'était une fête de test comparatif par
rapport à c'est ça.
Pour valider le premier test.
Ouais, pour comprendre. Ouais.
On a y trouvé des gens qui veulent changer de.
Ouais. On va leur dire de venir observer justement à côté du tram, c'est pas si mal.
Avec nous, on a fait le tram de.
Moi aussi, mais finalement c'est aussi intéressant de suivre les expérimentateurs.
Ah oui. Donc on peut le promener maintenant, un peu comme un chien.
Should we walk?
Là on dit 3 km/h alors, vu qu'on marche. Ouais. La marche c'est 3 km.
Moi j'aime bien les métaphores de l'algue, hein. Je trouve qu'il y a vraiment l'algue marine.
Ouais. L'anémone. Et alors là, en fait, c'est un peu ce que tu disais. Vu qu'on marche, le mouvement est beaucoup moins important. Dans le courant, quoi.
Et même il y a le rythme de la marche.
Bien, ouais. C'est ça. Vous faites au groupe?
Tout à fait, non, j'enregistre les groupes. Mais effectivement, ça fait de l'air quand tu fais ça.
Moi, j'ai mis alors dateur, diazote, collé, obstacle, anxiogène. Dateur, diazote ventilé, obstacle, chapeautage ergonomique.
Et la constance qui est passée.
Ok. Moi, je mettrais bien après. Végétation.
La végétation environnante. Après, nombre de mouvements.
Ce serait comment de, si tu comptes, si tu comptais le.
Ah ouais, en circulaire.
Ouais.
Bah après. on sort du nombre, alors c'est quoi? C'est cercle. C'est comme ils disaient 15 vantaux, c'est ça? C'est joli ça.
Ah oui.
Ils vendaient leurs trucs.
Oui, oui, oui.
Alors faut qu'on trouve un nombre de mouvements. Un nombre, ça serait quoi alors? Tu dirais en cercle, toi?
Pas trop fond,
ah. Bah, peut-être quand les franges bougent là.
Ouais. C'est le seul jour où il n'y a pas de vent.
Je mettrais bien une branche d'arbre.
Ouais.
Il n'y a pas de vent.
Ouais,
ça c'est esthétique aussi. Hein.
Oui, en plus, quand même. On a des poils de sanglier.
Oh, tu vois, il y a du vent.
Là, il y a du vent là.
Voilà.
Ouais. Un brun.
C'est bon, on vient de dire qu'il n'y en a pas,
alors
qu'il y en a pas. Ouais. C'est peut-être ça, si on utilise des objets. De mesurer les infinies variations de vent.
Est-ce que tu sens plus le vent avec ça, si tu bouges pas du tout?
Je pense qu'il faudrait que tu te mettes dans des endroits où il y a moins d'arbres.
Moins d'arbres?
Là, l'obstacle, les premiers obstacles, c'est les arbres autour.
Là, on sent un peu de vent.
Puis il y a le vent que vous créez en marchant, ça s'appelle le vent vitesse.
Je trouve que comme ça, ils fonctionnent bien. Ouais.
C'est sur moi de faire de
là. Bah, tu veux en cliquer un d'eux, tu l'enfermes, non? C'est là que tu...
Ah bah là, ça souffle.
Ah ouais.
Faut pas oublier que le corps, c'est aussi des obstacles.
Ok, est-ce que tu as marqué les boutons?
C'est pas moi qui les fiche, mais oui, moi je l'ai.
Attends. Yes, c'est bon, on l'a eu.
Là, je l'ai senti en tout cas. Je l'ai senti sur le visage.
Est-ce que je peux prendre le temps de fumer une cigarette, Daniel?
C'est bon?
Non, on prend plein de jours.
Ouais, je l'ai senti sur le visage en tout cas. Ouais. Ça souffle.
On a installé, si ça t'intéresse, on a installé un anémomètre.
C'est-à-dire, c'est très précis.
un peu plus.
Après, je vais faire un montage sonore et tout ça, donc rien ne va échapper à ce qu'on dit. Elle était de l'autre côté, non?
Je crois. Hein. Non, ils étaient ici.
Ah oui, c'est
fabrication vrai, c'est
vrai.
Maison.
Là, mais
d'accord.
Pas mal, hein.
C'est où?
C'est en haut, à l'étage.
D'accord.
Sur la terrasse.
Dans le coin, là-bas. Non, dans ce coin. Là.
Si, dans ce coin là-bas.
D'accord.
Ah oui.
Je vais aller voir ça.
Ah, enfin tranquille.
Enfin seul.
Allez-y, allez-y. Eh ben voilà. Et prendre la porte.
Ça se ferme.
Mais moi quand j'avance, ça se
fait. Non, il faut passer sous le viseur. Tu sais, c'est le truc de Tati. Je crois, oui. Je vous donne la main.
On peut faire un point par groupe, si ça vous dit. Enfin, je pense que c'est intéressant de savoir un peu les ressentis de chacun et puis les petites notes que vous avez faites. On commence par vous, votre groupe. Ouais. Est-ce qu'on prendrait pas les objets pour savoir ce que vous en avez pensé? Ouais.
Alors le premier c'était le ouais c'était ça. Alors celui-là on l'a appelé la avec le masque. Ah non avec le truc ouais. Et bonjour. Hein, voilà. Alors celui-là on l'a appelé la girouette à franges. Il était 11h33. Les obstacles autour de l'instrument on a donné neige. En fait ce qu'on a essayé de faire c'est de le planter dans la neige je crois comme beaucoup d'autres. Et on avait peu de mouvement, donc on a essayé de se rapprocher du tram pour essayer d'investir un endroit où il y avait un petit peu de courant d'air. Voilà, on a voulu mesurer le nombre de mouvements. Alors ça, c'était c'est très aléatoire. Donc tout le monde a fixé ardemment les franges roses pendant une trentaine de secondes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors sur l'intensité, bah, en fait, tout était très faible sur les intensités, mais j'imagine que c'est pareil pour tout le monde. Celui-là, on l'a rangé dans... orienté, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors il y avait l'idée que là il y a une girouette au-dessus qui donne l'orientation du vent. Voilà. Je sais pas si vous voulez rajouter des choses dans
girouette manuelle.
Précise ce que vous
Oui.
C'est bon, suivant.
Ouais. Suivant. Deuxième objet. C'est celui-là. Alors, ah oui, alors celui-là, on l'a rangé dans voir, mais en fait, il s'avérait que ce soit apparemment plus intéressant d'écouter avec, puisque en le mettant à côté de l'oreille, on percevait pas mal de choses. Ouais. donc c'est quoi, c'est le numéro combien, numéro 3 ?
Il a un prénom, il n'a pas de numéro, il a un prénom.
C'est quoi son prénom ?
Pollux.
Pollux, ok. Voilà. Au niveau de l'intensité, c'est assez faible aussi. Voilà. Bon, en fait, comme il n'y avait pas beaucoup de vent aujourd'hui, c'est assez difficile. Bon, on s'est dit que voilà, dans un endroit très venté, effectivement, en termes d'audition, ça peut être assez sympathique.
Donc ça, c'est pour entendre ?
Ouais. Ouais. Voir, on l'a mis dans voir, mais voilà, voir et écouter, entendre.
On pensait que ça marchait mieux avec...
Ouais.
On entend très bien le tram.
Ensuite... Ah oui, le masque. Alors ça se prêtait à des... Il y avait des envies de rituel, en fait, avec ça. Hein.
On l'a suspendu à une
branche. Ouais, on l'a suspendu à une branche d'un arbre. Là, c'est vrai qu'il y avait un peu plus de mouvement. Alors, à la fois du plateau et à la fois des petites franges roses. Bon, c'est tout. Voilà, donc deux types de mouvements. On a noté ça. Plutôt faible. Et le dernier, c'est celui-là. Là, pareil, assez faible. Alors, ce qu'avait noté Yves, c'est que les franges étaient moins sensibles que la peau. Donc, ce que tu disais, c'est qu'on sentait... Il y a des...
Ça, en essayant de voir si le vent faisait bouger les franges, mais on sentait plus d'air sur la peau que de mouvement de franges sur la peau.
Voilà. Et c'est tout. On n'a pas fait le dernier chapeau.
Je passe au groupe suivant. Vous êtes ensemble ? À vous ?
Alors, nous, il nous faut le chapeau. On n'a pas testé celui-là. On a eu le temps d'en tester que deux. Donc celui-ci est Pollux, du coup, pour que... Ok, alors le chapeau, voilà, posé sur la tête. D'ailleurs, on a remarqué que, enfin, on s'est dit que ça serait peut-être bien de rajouter une case pour l'utilisation de l'outil. Où est-ce qu'on le... Enfin, nous, on l'a posé sur la tête, mais on aurait très bien pu... Pardon, tes cheveux, putain. On aurait très bien pu faire ce genre de mouvement ou ce genre de mouvement au bout du bras. Enfin, du coup, on s'est dit peut-être une case supplémentaire. Voilà. Du coup, on s'était installé sur la terrasse et du coup, on s'est demandé si ça serait pas bien de rajouter une case lieu aussi pour préciser, genre, si on est dans la cour, à côté du tram ou sur la terrasse et tout. Donc, on était sur la terrasse tout en haut. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup que c'était plutôt... Bah, en fait, le papier ici est vachement rigide. Du coup, on avait très peu de mouvement. Donc, on a commencé à tourner le long du bâtiment pour essayer de choper un courant d'air. Et il a été casé dans la case attrapée, parce que du coup, on cherchait à attraper le vent, clairement.
Non, orienté. Parce qu'on s'est orienté.
Orienté, pardon. Autant pour moi.
On
avait fait un petit graphique pour les noter, mais on s'est rendu compte qu'apparemment, il fallait les caser dans une catégorie. Mais du coup, on les a notés plutôt en termes d'échelle. Et ensuite, Pollux, on s'est installé dans les portes en bas pour essayer, pareil, d'attraper un courant d'air. Parce que Pollux, en plein milieu du terre-plein, il ne réagissait pas des masses. Du coup, on a tenté de courir à côté, d'attendre que les portes se synchronisent et se ferment en même temps pour créer un petit vent. C'était plutôt léger. Mais ça bougeait beaucoup plus que le papier ici, qui est vachement...
Quand les portes se fermaient en même temps, ça marchait vraiment bien, ça faisait quelque chose comme ça.
Voilà.
En un peu plus lent, mais...
Quand elle bougeait le truc, hein. Sinon, ça marche pas. Non, mais sinon, il y avait en effet peu de vent, donc c'était peu favorable pour ton exercice. Donc, on t'a fait un petit cadeau que je sais pas où tu habites, loin, à Saint-Étienne, donc ça va aller. Alors, voilà, on t'a fait un petit cadeau qui est un appareil qui est plus sensible, c'est-à-dire que si les fils étaient deux fois plus longs, tu vois, enfin, il faut amplifier les choses quand il y a. Donc, on a fait un appareil un peu hypersensible avec une plaque de métal qu'on a trouvée en haut et qu'on a agité là. Et alors là, tu vois, ça, du coup, il devient sensible au vent, quoi. Alors, il faudra que tu ailles le chercher en haut. Je pense pas qu'il rentre dans l'ascenseur, mais. Et par contre, on peut faire un enregistrement sonore quand tu repars. Voilà. Oui, oui. Ah, oui, oui, alors c'est une œuvre collective. Là.
Je passe au prochain. Vous étiez ensemble ?
Alors, nous, on avait commencé avec celui-là qu'on a appelé le lustre à algues. Et en fait, à la base, on l'utilisait sans les lustres. Du coup, on le tenait juste à la main. Et surtout, nous, ce que ça nous avait vraiment évoqué, c'est qu'il y avait un mouvement. En fait, on s'était rendu compte qu'avec le mouvement de la main, il y avait une amplitude très faible, mais beaucoup d'intensité dans le mouvement des algues. Et qu'au contraire, quand on faisait des grands mouvements, bah, l'amplitude gagnait sur le mouvement des algues et avec une intensité moindre. Et ensuite, ça nous avait tout de suite évoqué des algues. Alors, il y avait un nom d'algue que je n'ai plus en tête. Non. Mais il y avait un nom d'algue qui avait été évoqué. Et des algues asphyxiées. Donc, je pense que c'est tout ce qu'on avait noté sur celui-là. Sur celui-ci, qu'on a appelé la couronne à franges, on s'était rendu compte que ça permettait de mesurer les variations de vent. Et alors, moi, j'avais eu, enfin, l'ayant eu sur la tête, j'avais eu une expérience un peu différente. Parce que j'avais une barbe plus épaisse il y a quelques jours que j'ai rasée assez court. Et du coup, j'ai plus de sensibilité maintenant avec ça sur la peau que sans. Et ensuite, on trouvait que le fait de l'avoir aussi devant les yeux. Alors, bizarrement, ça obstrue le regard, mais sans le gêner. Et que c'était assez apaisant au niveau. Enfin, dans le vécu, en tout cas. Et on se dit que c'est pour ça qu'on se disait qu'avoir les cheveux devant les yeux, c'est. Ça rendait cool parce que physiologiquement, ça y participait. Et ensuite, alors, on n'a pas eu la chance d'avoir Pollux sur notre route, mais on a eu l'autre qu'on appelait le récolteur, ouais, col avec du coup deux L E, parce que en fait, il y a une matière qui prend un peu, qui colle un peu à d'autres matières. Alors peut-être qu'il a été porté sur la tête et que c'est des résidus de cheveux. Mais du coup, voilà. Et celui-là, du coup, nos observations, c'était que... Au début, moi, j'ai cru que c'était de l'humidité. Donc en fonction de la... Que plus il y avait d'humidité, plus ça allait, les taches allaient vers le fond du récolteur. Mais ce n'était pas le cas, parce que c'était de la matière. Et non, c'est un peu ce qu'on s'était dit. On s'était dit que ça pouvait aussi faire office de piège à blattes. Voilà, c'est moins poétique, mais et je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas si j'ai omis des. Non.
Alors nous on s'est saisi d'un seul objet, celui-là, et en fait on a commencé à travailler à partir des verbes qu'il y avait sur la courbe, et donc on a commencé à se dire qu'est-ce que cet objet peut attraper. Donc on s'est dit bon bah l'objet il pourrait être comme ça, suspendu dans l'air, et puis il pourrait tourner, et dedans donc passe de l'air. Et donc, l'objet attrape donc, du diazote collé. Ensuite, on s'est dit que c'était quand même anxiogène de devoir attraper des choses comme ça pour ce diazote qui va être collé à l'intérieur. Ensuite, la végétation environnante, il y a eu un monsieur qui est venu nous enregistrer, qui avait les cheveux poivre et sel, donc c'est la végétation environnante. Le nombre de mouvements, c'est le cercle d'aspiration et la vitesse de gravité, quoi, ce serait un objet qui flotte. Ensuite, on a continué, donc on s'est dit aussi que ça pouvait faire ce mouvement-là. Donc c'est du diazote ventilé. L'obstacle, c'est chapeautage ergonomique.
C'est ça.
Oui, c'est juste. Ouais, ok. Végétation environnante, c'est de l'éther. Et le nombre de mouvements, c'est ascensionnel. Donc c'est un mouvement ascension. Et la vitesse de soulèvement. Voilà. Je te laisse présenter.
On a continué comme ça, en fait, parce que ce qui nous a intéressé, c'est de... Finalement, on était très embarrassés avec un objet qui nous ramenait directement au ludique, et on est parti là-dedans, et des instruments qui nous ramenaient à la mesure, quoi, avec un calibrage de la courbe, du rectangle, enfin du carré, etc. Et du coup, en fait, on a ouvert l'espace à l'imaginaire. On est vraiment entré dans l'étonnement. Donc, on a continué comme ça. Alors, le voir, c'est du diazote disparu. L'obstacle autour de l'instrument, c'est l'œil. La végétation environnante, ce sont les terminaisons nerveuses. Le nombre de mouvements, c'est de l'infini à zéro et la vitesse d'éclair. Ensuite, le ressentir, c'est le diazote nasal avec l'obstacle, la fosse. La végétation, c'est les végétations. Le nombre de mouvements, c'est labyrinthique et la vitesse épidermique. Et enfin, le suspendre, c'est du diazote tellurique, l'obstacle autour de l'instrument, la main. La végétation environnante, c'est le neigeux en suspension. Le nombre de mouvements néant et la vitesse soucoupe supravolute, c'est ça, volante. Voilà, donc en fait, on a ouvert le registre de l'enfance. C'est ce que nous a amené un objet qu'on a complètement dérivé de son aspect de fonction. Voilà.
Elle est où ? Il y a Gwendoline.
Bah, il nous manque Gwendoline.
Oui.
Donc, donc, à deux. Donc, Vanessa, tu... Ouais. Donc, nous, on a commencé à 11h30 par celui-ci. Donc, on sortait quand même du bâtiment chaud. Et donc, finalement, ce qui est assez marquant, c'est qu'on s'est retrouvé saisi par le froid, mais pas encore suffisamment. Donc, notre rationalité était quand même assez présente. On ne s'est pas encore refroidi. Et on avait commencé par essayer quelque chose. Donc, faire une dizaine de mouvements. On a essayé de mettre un peu dans tous les sens cet objet. L'écoute, justement, est ce qui nous avait paru le plus probant. Et finalement, il y avait juste quelques arbres autour. On était assez critiques sur notre opérationnalité actuelle lors de ce premier un peu objet. Donc on était encore dans une phase d'échauffement de l'imagination, donc il nous en manquait un peu à ce moment-là. Et voilà. Donc là, on était vraiment, c'est ça, dans un usage. Dans l'usage, on a même essayé de reconstituer un peu les faces cachées pour essayer de l'objet, voir un peu sa fabrication, pour essayer de voir dans quel sens il fallait le voir et le montrer. Donc c'est pour ça que ce sens-là nous paraissait pas pensé par le concepteur. Voilà, et donc au niveau de la vitesse du vent, on s'est encore à ce moment-là raccroché à nos références. Donc c'était un vent faible, on va dire à peu près un Beaufort. Et avec quand même cette envie d'ouverture de notre imagination en mettant plein de possibles, avec un tout petit peu plus de vent. Voilà, donc à ce moment-là, je ne sais pas si tu veux rajouter. Donc le deuxième objet, qui est celui-ci. Donc là, mea culpa, on était en pleine négociation pour savoir qui tenait le crayon. Donc j'ai un peu raté une partie des actions et des discussions. Donc il était 11h36, j'ai quand même réussi à compter à peu près 4 tentatives de mouvement et d'orientation, donc planter dans la neige, dans les deux sens, et faire tourner cette girouette aussi.
On l'avait appelé capteur de micro-mouvement, micro-courant d'air, frémissement.
Alors moi, j'ai noté aussi un petit verbatim, léger frémissement des poils sensibles. Donc voilà, c'est ce qui avait retenu notre attention. Donc voilà, donc très vite, il a fallu qu'on entre dans une enquête et une recherche d'un nouvel objet. Il n'y avait plus personne autour de nous. Et il y a eu une petite phase un peu de tentative de nous refourguer l'objet qu'on avait précédent. Donc on a dû quand même... On n'est pas rentré en conflit quand même, mais on s'est vraiment déplacé donc pour trouver un nouvel objet, et on s'est retrouvé sur une butte au centre de 3 arbres. Donc là, pour le coup, il n'y avait pas non plus beaucoup de vent,
mais l'air
était plus frais. On avait marché dans la neige, donc notre rationalité s'était un peu arrêtée. Donc il était 11h45, donc finalement ça a été assez rapide. Et donc là, celui-ci m'a mis sur la tête au départ. Puis après, on a commencé un peu à vouloir s'en détacher, donc l'accrocher sur un arbre, etc. Donc pour voir en fait les micro-oscillations de l'arbre, plus que du vent finalement. Donc il y avait un médiateur supplémentaire. Et accroché à l'arbre, ça nous a fait un peu penser aux attrape-verres. Donc on l'a renommé sur ce moment-là. Attrape-verres, oui. Attrape-vent, voilà. Le raccourci. Je ne me suis pas encore réchauffée. Et voilà, donc ça a fait émerger, là, à partir de ce moment-là, des anecdotes. D'autres. Donc il y a eu des histoires de tamis... De technique, de tambour aussi.
Oui, l'idée que le vent, on ne pouvait pas l'attraper.
Voilà, donc on arrivait presque dans des analyses sur la substance même du vent. Donc maintenant, on est passé au quatrième qu'on a réussi à récupérer. La méduse. Non, voilà, on a eu... Voilà, donc midi 01, et très vite on s'est dit qu'il y avait une orientation quand même par l'indication du fil. Première approche liée un peu au contexte ambiant, ça nous a fait penser au Stade de France. Je ne citerai pas qui, gardons l'anonymat. Après, il y avait toujours un peu ces poils sensibles ou autres indicateurs, là, l'écran rose. Et on s'est demandé plutôt ceci, à quoi il servait. Donc là, on était vraiment sur l'indication de l'humidité, quoi, avec cette question un peu d'une double information. Donc il a été un peu déposé sur la protection des arbres, là, les rondins, pour essayer de le suspendre dans ce sens. Voilà, et puis en faisant ça, bon, il y a eu un début de destruction, quoi, de réparation. Donc on est devenu vraiment dans la maintenance de l'outil. Et on l'a renommé un peu la méduse avant. Voilà. Et puis on n'a pas réussi à avoir le cinquième.
Alors, pour faire un petit peu vite, parce que ça répète un petit peu ce qui a déjà été dit, le premier, c'était la couronne, là. Et on s'est mis à l'angle arrondi du bâtiment, positionnement stratégique pour capter normalement le plus grand mouvement de vent. Et en fait, c'était très faible. Donc Suzanne nous a dit que c'était un instrument qui nous servait à peut-être approcher les limites du phénoménal. ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? Bon, je ne sais plus dans l'ordre, mais celui-là, il nous a beaucoup intéressés. En fait, pas tant dans l'observation de l'objet, parce qu'il ne bougeait pas, mais à travers l'objet. Et ça nous a permis d'observer toute la petite vie qui se développait sur l'écorce d'un arbre, avec des champignons microscopiques, des mousses, du lierre, un trèfle en fleurs, et surtout une toile d'araignée. Toile d'araignée qui vibrait énormément, selon si on imaginait que c'était une araignée de campagne ou de département. donc, ça nous a permis de dire que voilà, il y avait énormément de vent à l'échelle de l'araignée. Quoi d'autre ? Après, ce n'était pas, peut-être pas très intéressant, nos observations. Mais si le chapeau retourné a fait trembler ses franges au passage d'un tramway. Voilà. Parce qu'on l'avait posé au sol.
Et le tramway est passé comme ça ou comme ça ?
Et celui-là, en fait, il avait des mouvements variables. On a observé du pas de mouvement jusqu'au grand mouvement. Voilà. Et le dernier instrument, c'était lequel ? Non, mais... Oups !
La méduse ?
Pardon. Oui, la méduse, en fait, celle-là a été décrétée un petit peu inadaptée à la force du vent actuel. Donc, il y aurait des objets... plus ou moins adapté selon la force du vent, quoi. Voilà. Et puis après, ça répète un peu ce qui s'est dit. Donc. Voilà.
Tous les groupes sont passés ? Oui. Je ne sais pas tellement comment terminer, mais merci beaucoup. C'était super intéressant. Et j'espère que ça vous a permis de vous évader ailleurs, donc dans l'imaginaire et dans quelque chose de plus concret avec des mesures... comme Gwendoline, assez, je sais pas, réglementé, on va dire, avec un langage, déjà, on sent que tu le pratiques. Ouais, et je trouve ça super intéressant d'avoir différentes, c'est pas différents points de vue, mais différentes sensibilités et approches en fonction de ce qu'on fait aussi de nos métiers. Donc, merci beaucoup.
Je voulais juste partager une des conversations qu'on a eues dehors avec Charlotte et après avec Christelle et Gwendoline autour que, en fait, ces dispositifs ont une parenté avec des instruments, avec toute l'historique de la métrologie et de la météorologie, ouais, toute l'histoire, en fait, de toutes ces inventions de dispositifs qui... Ouais. De parler de ça et puis on peut...
Alors, celui-là, bon, il a été un petit peu cassé dû au fait que c'est pas très solide. En fait, je me suis inspirée de l'hygromètre qui mesure l'humidité de l'air. Donc, c'était les hygromètres à cheveux. Donc, il était utilisé des cheveux avec beaucoup de kératine dedans pour... mesurer l'humidité en fonction de la déformation du cheveu. Donc, c'était cette idée-là. Donc, il y avait des fils qui étaient autour, enfin, qui étaient suspendus. Donc, ça participait au terme suspendre. Celui-ci, ça a inspiré... quelqu'un l'a dit, du pluviomètre. Et je trouve que c'était marrant, c'était un attrape-blâtre. Par exemple, à Météo France, la principale maintenance des pluviomètres, c'est d'enlever les insectes pour pas que ça se bouche. Donc, l'idée, c'était d'attraper tout ce qu'il y a dans l'air. Donc, ça marche peut-être mieux vers le printemps, quoi, où il y a plein de pollen. Donc, attraper ce qu'il y a dans l'air
pour enfin dans la surface scotchante. Là. Là, celui-ci, ben, c'est la girouette qui ne fonctionne pas. ouais, donc ça, c'est le principe de s'orienter, ni plus ni moins. Donc ça, c'était voir. Donc c'est de permettre, je trouve que ce que vous avez dit, c'était vraiment intéressant parce que c'est de permettre de regarder, de se situer, de regarder quelque chose de précis. Sans voir aussi ce qu'il y a le pourtour, mais de se mettre à l'échelle de quelque chose d'autre. Et... Non. On dirait un satellite. Ok.
Eduardo Cap qui a négocié avec Thomas Pesquet de construire une œuvre dans l'espace. Et en fait, ça ressemble étrangement à ton truc, parce que c'est... Non, le Pollux, là. Oui. Alors, il est fait avec deux feuilles à quatre qui sont découpées et qui ne font aucun... Et ça vole dans la capsule qui est donc hors air, quoi, justement. Donc, je trouve ça rigolo parce que c'est le contrepoint absolu. Et tu as une forme finalement semblable, quoi. C'est assez drôle. Et ça a été documenté par le petit-fils de Maurice Novarina, grand architecte grenoblois, qui s'appelle Virgile, qui est le fils de Valère. Et neveu de Gilles, et qui a fait un film assez beau là-dessus.
Du coup, il s'appelle comment l'artiste ?
Eduardo Cac.
Eduardo Cac. Et le dernier, en fait, ce que je trouve le plus. Enfin, ce qui m'a le plus intéressé quand j'ai commencé à travailler sur le vent, les mouvements de l'air, c'est le fait que ce soit. La perception qu'on a en premier, c'est par nos cheveux. Le fait qu'ils se mouvoient très rapidement et on les a dans la tête, ils sont c'est quelque chose de gênant, surtout quand on a des cheveux assez longs. Et du coup, c'était de faire ça, c'est de faire de l'extension de ce qui peut être, quoi, de pouvoir le poser sur la tête, et je trouvais ça intéressant, justement, le fait que ça te sensibilise la peau et que quelque chose qui vient te toucher, quoi, te chatouiller un peu. Donc voilà, je crois que j'ai présenté tout. Oui, je les ai tous présentés. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'en construire d'autres et de continuer à faire des ateliers et d'en perfectionner, et que ce soit quelque chose de parler de captation différemment et peut-être avec d'autres publics, avec des scolaires, ça peut être intéressant. Et que ce soit de partir dans l'imaginaire ou dans quelque chose de... beaucoup plus cadré, ça pourrait être super de le faire avec des météorologues qui c'est leur métier, quoi. Voilà. Bah, merci beaucoup.
Il y a juste une idée que ça vient de m'évoquer, ce que tu dis, c'est, en fait, vu que c'est des objets détournés de leur fonction initiale, mais quand même inspirés d'objets qu'on a une, je trouve que le rapport à l'espace qu'on avait, enfin, si je nous resitue, on a une appréhension assez autre de l'espace. C'est-à-dire qu'on est en train de se comprendre où est-ce qu'on peut le suspendre, de où est-ce qu'on peut le faire, et du coup, on se met, enfin, limite cette idée de le poser à côté du tram pour voir si ça fait vibrer. Enfin, en tout cas, on a la fonction de l'objet, vu qu'elle est décalée, implique un regard très décalé sur l'espace, qu'il soit imaginaire ou même très très concret, quoi. Et du coup, je trouvais ça assez intéressant à ce niveau-là.
Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont utilisé. Enfin, je comprends pas de dire de bêtises, mais ça s'appelle le vent vitesse. Donc, c'est le vent qu'on produit en marchant. Et ça, c'est un vent à part entière. Et c'est vrai que, par exemple, pour naviguer avec des catamarans, on utilise beaucoup ça. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Même quand on est en vélo, on crée. On perturbe la masse d'air dans laquelle on est. Donc. Voilà, c'était de permettre de se rendre compte de ça, et je suis super contente de ce que ça a pu produire.
Et ce que ça met en jeu, c'est dans l'introduction à l'atelier, tu as parlé un peu de l'objectivité et de manière que c'est des captages subjectifs qu'on fait. Mais pour moi, il avait quelque chose qui revient beaucoup dans ces séminaires de Sensibilia, autour de cette notion du subjectif et de l'objectif, que le sensible renvoie toujours au subjectif, et qu'en fait, toutes les mesures, toute la métrologie est là pour aller au-delà du sensible, en fait, et d'arriver au réel comme ça. Mais en fait, je crois qu'il a quelque chose avec ces dispositifs qui ouvrent en fait C'est exactement ce que tu disais, ça ouvre une autre forme d'attention, et une attention qui n'est pas, qui est concrète et qui est empirique. Et là, la question d'objectivité est plutôt déplacée, pas une sorte de machine qui pourrait accéder au réellement réel comme ça, mais plutôt tout le travail de calibrage dont tu parlais, et de manière évoquée par ces graphes, qu'il a une manière de le faire, une méthodologie qui veut dire que tout le monde fait la même chose, et il a une manière de, et c'est plutôt une manière de, ça se construit en fait, ce qu'on appelle l'objectivité se construit toujours, et c'est pas en opposition avec la sensibilité en fait, et il a toute une, et ce serait super de voir comment les météorologistes qu'est-ce que ça leur fait de retrouver leurs instruments mais d'une manière complètement déplacée.
J'ai fait une semaine de stage au centre météorologique de Rennes, et on a parlé de tous ces problèmes. Enfin, pour moi, c'est pas un problème, mais le fait que la science de la météorologie doit devenir de plus en plus exacte pour devenir météosensible. Donc, selon eux, être météosensible, c'est de permettre à des secteurs économiques comme l'aviation, l'agriculture, d'être de plus en plus rentables, donc de connaître de plus en plus précisément les différentes couches d'air. Et donc ça s'oppose aussi avec ce que moi je fais comme définition d'être météosensible. Et du coup, les données dites objectives qui sont récoltées par Météo France, donc il y a la première phase où les prévisionnistes ne vont pas sur le terrain mais reçoivent des données sur leur ordinateur qui sont analysées par un modèle de calcul qui s'appelle ARPège, en tout cas en France, il y en a dans tous les pays et un modèle aussi européen. Et après ça, il y a une analyse par plusieurs prévisionnistes. Et là même, ils doivent se rappeler qu'il y a des biais humains qu'ils essayent d'effacer de plus en plus pour ne pas arriver dans des choses de plus en plus précises. Et je trouve ça assez fou qu'ils aient des formations là-dessus sur le fait qu'entre ce que tu penses et la réalité, il y a une différence, quoi. Je ne sais pas si ça continue à ce que tu disais, mais ils en ont conscience, mais c'est une conscience c'est pas une conscience de terrain, quoi. C'est devant un ordinateur et ils ont trois ordinateurs devant eux et ils discutent deux fois par jour de ce qui va se passer sur la France, quoi. Et ils analysent de tous les pays. Et puis, la dernière chose que j'aimerais bien dire, c'est que La météorologie, c'est une des rares sciences qui s'échange encore de manière gratuite les données de tous les pays, que ce soit les données de la Chine ou les données des États-Unis. En fait, on y a accès. Donc, c'est des données brutes, mais tous les météorologues y ont accès, tous les prévisionnistes y ont accès. Et ça, c'est encore rare parce que, en fait, on ne peut pas faire notre météo si on ne sait pas celle des États-Unis. On ne sait pas ce qui va advenir pour l'Europe. Et du coup, ça, je trouve ça assez bien. Et je crois que c'est un petit peu... Il y a certains pays qui aimeraient que ce soit un échange monétaire, quoi. Mais du coup, il faut garder cette idée que ça reste quelque chose, une science d'avenir, je pense. Et de...
Collectif.
Oui, et collectif, ouais. Ouais. Entre tous les pays, quoi. Et permettre de discuter ensemble, ce qui fait que ça fait des choses standardisées, mais voilà.
Il y a d'autres tours.
J'ai envie de réagir à plusieurs choses. D'abord, ce que tu viens de dire, que je trouve très intéressant, mais qui mériterait peut-être recherche, c'est-à-dire que la météo est par ailleurs un tel enjeu économique que on voit bien que ça doit être investi par d'autres biais et peut-être encore plus financiarisé que d'autres pseudo biens communs qu'on regrette, quoi. Oui. Mais je trouve ça intéressant par contre de dire effectivement c'est un des rares cas où peut-être de principe légalement, de façon conventionnelle mondiale, il y aurait un accord pour que les données soient libres, quoi. Sauf que quand on veut une prévision météorologique, le chat, on sait très bien qu'on paye très cher pour avoir à plus que 5 jours, etc., quoi. Et que c'est des enjeux majeurs pour plein de domaines, quoi. Donc il doit y avoir des paradoxes à creuser. Je sais pas, j'ai rien à dire de plus là-dessus. Non, l'autre chose que je voulais dire, c'était, je m'interrogeais sur que serait-ce que l'équivalent de par rapport à ce que tu nous as fait faire et à ce que nous on a fait au Crisson, l'équivalent d'une promenade sous bandeau, qui est le principe, tu sais, de cacher la vue pour mettre les gens à l'écoute. Pour mettre les gens à fleur de peau, en quelque sorte, quoi. Et donc, je pense que le bandeau, il serait toujours valable, mais je pense, et là, c'était pour redire que tout à l'heure, c'était pas une blague quand je disais on se déshabille, parce que, d'une part, moi, l'expérience qu'on a faite là tout à l'heure, où on n'a pas été très sérieux, mais comme on a chahuté, on a été très sérieux, parce qu'on a inventé un nouvel instrument, et que, en fait, on a réalisé qu'on percevait beaucoup plus par la peau du visage, ou bien qu'on a fait comme ça partout, et qu'on a une hypersensibilité beaucoup plus grande que ce qu'on observait à partir des objets eux-mêmes. Et l'autre anecdote, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer un homme de la forêt amazonienne, qui était donc quelqu'un qui a été désigné par sa famille, par sa tribu, comme l'homme de la forêt de l'année, etc. Et qui donc se solde par, à l'âge de 11 ans, nous avait-il raconté, il part seul avec une hache et une sarbacane dans la forêt pour une année, quoi. Et il se démerde là-dedans, etc. Et dans la séquence filmique qu'on a faite sur lui, il a expliqué, ça m'avait beaucoup saisi, combien le fait d'être nu était absolument fondamental pour lui, parce qu'il percevait absolument justement tous les mouvements d'air et donc tous les dangers qui sont permanents en haut, en bas, devant, derrière, etc. Et donc c'est aussi un sens qui est ubiquitaire, quoi, qui sent aussi bien ce qui arrive par derrière que par devant, et que paradoxalement, en fait, pour se défendre contre toutes sortes d'embûches de la forêt amazonienne et d'animaux quand même moitié sympathiques, etc., eh bien, il vaut mieux se dépouiller totalement que de se carapasser derrière une chose. Donc je me disais, voilà, ça pourrait renouveler sérieusement nos méthodes, de demander à des gens de se mettre à poil. Alors on peut garder un string ou un truc, hein. Et puis d'être augmenté par des instruments comme les tiens, mais alors avec une amplification réelle, parce que je pense qu'ils sont pas assez sensibles, tes trucs, quoi. Enfin, faut rallonger les cheveux, il faut des porte-à-faux beaucoup plus grands pour que les mouvements s'amplifient, pour pouvoir palper des choses très très micro. Et voilà, c'est de la blague et pas de la blague, quoi. Je trouve qu'en haut, par exemple, moi, ça m'a le plus intéressé, parce, bon, peut-être comme architecte, mais j'y ai jamais trop pensé, quoi, de façon très, très implicite. Et simplement là, on s'est mis à des endroits précis dans les angles, et tout de suite, on sent qu'il y a un tout petit courant d'air de plus que si on est au milieu. Ou bien si on est au bout des 100 mètres de façade, là, c'est très, très net, il y a un courant d'air, alors même que le vent venait de enfin, il y avait un contre-courant, je pense. Je me le visualise physiquement. Mais je pense qu'en effet, il y a une espèce d'implication dans de la conception architecturale qui peut être vraiment extrêmement intéressante et fait par beaucoup plus par un minimum d'expérience et d'expérimentation. Autocare, alors, hein, comme vous dites, c'est ça, c'est-à-dire des expériences personnelles, sensibles, de perception de ces mouvements d'air, quoi. De la même façon que dans le sonore, comme architecte, ça n'a pas de... Bon, sauf pour des questions de protection acoustique, mais il n'y a pas de conséquences directes. Par contre, il y a une sensibilité acquise par l'expérience d'attention au son, qui fait qu'on ne va pas concevoir de la même façon. Mais ce n'est pas un domaine, c'est pas quelque chose qui s'intègre dans le processus. Et je trouve que l'aérolique n'y pense peut-être pas assez.
c'est Jacopo. Ouais, mais on passe.
Je voudrais savoir si tu tiens un journal de l'évolution de tes sensibilités à l'air. Parce que en t'écoutant, bon, j'essaie d'être court, mais en t'écoutant, ça me fait penser aux écrits d'Escola sur les hachoirs qui expliquent ce passage à 40 ans qu'il observe où les intuitions deviennent tellement justes que les décisions sont pratiquement immédiates au moment de la chasse, par exemple, et passent plus par une analyse, une réflexion, un décortiquage comme on vient de faire par le biais des petits documents que tu nous as donnés. Et du coup, je me demande, vu que tu es reparti pour faire ça, c'est ton travail, quoi, pour une longue période, je me demandais si tu tenais un journal de l'évolution de tes sensibilités pour peut-être à un moment, quand les intuitions viennent, voilà, voir la construction qui a pu amener jusqu'à là.
J'ai un journal, mais ça reste un journal intime. Et je pense que ça fait partie d'un tout. Je crois que se rendre sensible, c'est pas que à la météo, mais c'est à d'autres choses. Et j'ai un journal de moi à moi, mais pas de moi aux autres. Et je pense que c'est une bonne idée, mais je crois que depuis que j'ai commencé à faire ça, donc ça fait 4 ans maintenant que je travaille là-dessus, j'ai beaucoup changé aussi d'approche, c'est-à-dire qu'au début c'était beaucoup plus naïf dans le sens où j'avais très peu de connaissances de la météo, et plus je travaille là-dessus, plus je comprends l'importance, enfin, de l'enjeu que le vent est, que le vent transporte, le fait qu'il transporte beaucoup de polluants, le fait qu'il permette d'abolir les frontières. Et ça, je l'ai bien senti, et même d'année en année, quand je fais le point de ce qui... Même de l'année dernière, quand j'ai commencé à parler avec Jean-Paul, c'est, ouais, j'ai une grande évolution, mais c'est vrai que ça peut être hyper intéressant de l'écrire. Mais quelquefois, je dis des choses hyper naïves et je reviens dessus parce que je commence à lire de plus en plus. C'est vrai que je suis en DSRD, donc c'est un diplôme supérieur de recherche en design en école d'art. Donc la part de théorie, elle est importante, mais elle est moins conséquente qu'un doctorant. Et du coup, j'ai l'impression que ça vient par palier, par livre que je lis ou par conférence. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Voilà.
Non, je voulais te soumettre un problème auquel je pensais par rapport à tes remarques sur comment s'évolue le monde de la météorologie et comment ça préconise une météosensibilité qui a pour but d'augmenter la productivité, etc. Il n'y a pas longtemps, avec les amis d'une revue qui s'appelle Multitude, on travaillait sur un dossier autour de la notion de planétarité. Et un des objets qui était un peu mis sur la table dans les textes, c'était la question de la géo-ingénierie et donc de la production du climat. Par cette perspective-là, j'ai l'impression que la question de la météorologie dépassait les stades de juste capter et être sensible, et donc reconnaître ce qui se passe, et attend un autre type de régime qui est celui de provoquer, et en ayant une connaissance des phénomènes météorologiques, une sensibilité, arriver à mettre en place des dispositifs plus à des échelles assez différentes, donc qui posent des problèmes à différents en termes politiques et éthiques, à influencer, donc à produire donc et les situations climatiques, atmosphériques. Voilà, donc c'est juste ce problème-là de... Est-ce que tu l'observes? Est-ce que c'est un objet de réflexion?
Alors, je pense que je déplace un peu ce que tu dis dans l'architecture. J'ai pas mal écrit sur Dubaï, par exemple, où ça crée des climats artificiels, le fait que ce soit des grandes zones commerciales où on ne sort pas vraiment dehors, donc du coup tout est climatisé. Et donc j'ai fait un peu un point historique avec, par exemple, le Crystal Palace, où c'était le but d'être à l'intérieur comme à l'extérieur, d'avoir un climat artificiel. Mais à l'échelle de la météo et du métier de météorologue, je ne crois pas qu'ils sont encore... je le dis peut-être, il faudrait que je me renseigne plus, mais je ne crois pas qu'ils sont encore dans essayer de maîtriser, mais c'est plutôt essayer d'avoir un maillage au niveau planétaire tellement rétréci qui pourrait prédire le moindre écart d'atmosphère, le moindre écart de température, et qui permettrait du coup d'avoir des prévisions de plus en plus précises. Mais le problème qu'ils rencontrent, c'est que les calculateurs ne sont pas assez puissants pour calculer au jour J du bulletin météo. Donc c'est possible de le faire, mais ça n'arrivera jamais à temps pour le jour J. Et je crois vraiment que Météo France, eux, leur but, c'est de satisfaire satisfaire l'aéronautique, que ce soit pour l'énergie, parce que en fait l'État donne de moins en moins d'argent et que ça reste quelque chose de public, et du coup ils ont besoin de garder aussi des centres régionaux et de pas tout, parce que le centre le plus important c'est celui de Toulouse, et de pas aller tout centraliser à Toulouse et de rester sur les terrains, sur les régions. Et ouais, j'ai senti une forte détresse des météorologues de cette envie de vraiment tout centraliser. Je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais ça, je divague un petit peu. Mais voilà, et je crois qu'ils sont à la recherche de plus en plus de financement, et ils vont les chercher dans des endroits comme pour l'énergie, mais je le vois pas comme négativement, par exemple pour l'énergie, parce que ça permet d'être au plus juste et de moins, enfin pas de moins consommer, mais de moins polluer aussi, d'être au plus juste de ce qu'on consomme réellement. Donc voilà, je pense que l'enjeu vraiment dans l'avenir, c'est d'être de plus en plus précis, et d'avoir aussi, parce que là je parle des captations avec des instruments, mais la grosse partie des captations, c'est les satellites, et là c'est le centre de Lannion en Bretagne qui, là, ils investissent de plus en plus là-dedans, parce que c'est vers ça, c'est les images satellites qui vont nous permettre de vraiment avoir un point de vue un peu central de voilà.
Ouais. Ça me fait penser, ouais, j'ai eu une conversation avec l'agriculteur Etrice qui vend des pommes et des poires pendant septembre au marché local, où il me parlait de, parce qu'il avait une année, où, l'année passée, où il avait perdu quasi tous ses poires, avec un gel, avec du grêle, avec et il payait beaucoup pour un météo plus longue, et aussi avec c'est pas une coopérative, mais avec d'autres agriculteurs dans le coin, ils ont investi dans un canon ultrason pour combler le, je sais pas si c'est le mot, la grêle. Parce que le grêle, c'est...
En fait, c'est pour faire tomber l'eau avant qu'elle se forme en...
Ouais, exact. Ouais, c'est la géo-ingénierie qui se fait...
Les agriculteurs, ça existe depuis très longtemps.
Ouais. L'agriculteur le fait avec l'iode. Ouais, ou mettre feu à côté des vignes.
Même dans tout près là où il y a le Mistral, donc Montélimar, tout ça, le fait de mettre des petits remparts, ça permet que le vent se...
Que le vent ne balaye pas, ne chasse pas de manière trop violente. En fait, il y a déjà des choses comme ça qui sont faites, qui n'ont pas attendu l'arrivée de la technologie pour...
Je pense qu'il y a des interventions qui sont une forme d'aménagement en fonction de ce que la météo elle est telle qu'elle est. Après, il y a d'autres types d'interventions qui sont plus délicat qui vise à vraiment intervenir sur la météo elle-même pour la modifier, comme par exemple faire tomber l'eau avant que ça grêle, ou la Chine, elle a des problèmes de sécheresse à des endroits, et elle a déjà, j'avais lu des choses sur comment la Chine, elle est déjà en train d'essayer de déclencher des précipitations d'eau en intervenant sur la composition atmosphérique. Et donc je pensais à ces choses-là.
Il y a 3 ans, j'ai participé à l'agriculture 2040 pour la Commission européenne. Et on était tout un groupe d'étudiants qui devaient réfléchir sur l'avenir de l'agriculture. Donc le but, c'était de créer des objets de médiation, de discussion, parce que c'est vrai que ceux qui votent pour... les lois, ceux qui votent pour l'agriculture en sont un petit peu, sont totalement dans un autre monde et ne vivent pas forcément l'agriculture comme les agriculteurs et les agricultrices. Et on s'était rendu compte, vraiment, c'était assez effarant, qu'ils n'avaient pas du tout idée de ce que c'est de vivre pour ça et de vivre qu'à travers ça, que ce soit le seul de... la seule chose que tu fais. Et il y avait des choses vraiment effarantes, de production de fruits, le fait que les jeunes ne mangent pas assez de fruits, du coup... Enfin, je m'égare un peu, mais je trouve ça... Il faut le dire, que les jeunes ne mangent pas assez de fruits. Du coup, l'Espagne a proposé de faire des fruits en sous-plastique, donc des quarts de pommes sous-plastique, et ça a été validé. Donc voilà, et c'est ça, c'est important en fait. Je pense que nos métiers, ils sont importants, c'est d'être d'une sorte de médiation pour comprendre qu'en fait c'est tout un déraisonnement, et ils votent des choses sans les connaître en fait. Et voilà, bon, c'est un petit voilà.
C'est juste un tout petit point pour rebondir avec le sérieux du nu, de dire que c'est vrai, quand on est parti dans cette démarche imaginaire, ça peut paraître être une blague en fait, hein. c'est drôle, alors oui, on a beaucoup ri, mais en fait c'est très sérieux, c'est-à-dire que c'est aussi une des variations du sensible, d'ouvrir à des registres de ce que Ricoeur appelle la suspension de la référence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ouvre à cette vivacité aussi que je trouve qui transparaît beaucoup dans ce film. Les enfants savent très bien faire ça, d'ouvrir des espaces pour mieux y revenir. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'évidemment, là, c'est un jeu très court, dans un temps très serré. Mais cette ouverture, elle est aussi vraiment nécessaire pour mieux revenir, tout de même. C'était pas juste faire une grande blague de la même façon que le nu. C'est tout aussi important de... C'est tout à fait sérieux, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Oui, peut-être juste pour compléter, au niveau du travail des prévisionnistes, au niveau de Météo France, par exemple, l'effet un peu de la centralisation qui s'opère, c'est certains me racontaient que souvent, ils utilisent la météo qu'ils ont observée dans leur chemin domicile-travail, quoi. Et il y avait toute une pratique qui se fait un peu entre prévisionnistes, c'est d'appeler le collègue de telle ou telle ville ou tel centre. Et petit à petit, pendant un moment, quand il y a eu ces effets de recentralisation sur quelques pôles en France, des anecdotes en disant « bah non, moi, je ne suis plus du tout à Caen, je suis... » Je suis à Lyon maintenant, je ne peux pas te dire la météo qui fait. Donc ils ont eu un peu, au niveau des prévisionnistes, une perte d'informations importantes, et qui est un peu, pas remédiée, mais qui est un peu, bon là je transmets un peu leur appel, où là sur l'application smartphone Météo France, vous pouvez prendre une photo et puis juste qualifier un peu la météo qui fait. Et il faut savoir qu'en fait ils les utilisent beaucoup, notamment sur des phénomènes très localisés, type les orages, les chutes de neige ou ces choses-là. Donc voilà, ou les hauteurs, par exemple, de nuages si vous êtes à la montagne. Donc en fait, sachez que si vous avez le temps, vous pouvez le faire. Et voilà, transfert de science participative un peu. Donc pour que le...
Ouais, il y avait...
Il y avait quelqu'un ? Non, non, j'étais...
Peut-être on peut clore la session pour... Merci beaucoup, Charlotte, pour cette expérience. Merci bien. Alors, deux petits points. Un, juste pour vous raconter ce dispositif un peu clumsy, avec tout le... Ouais, d'avoir tous les microphones, c'est parce que en fait, avec ces séminaires, on les enregistre pour faire un podcast, pour faire un petit capsule sonore qui se met sur Canal U. Alors, en fait, c'est quelque chose d'important maintenant. Il faut que, pour que votre voix ait dessus, ce serait super si vous pouvez signer. Et aussi nous dire si vous ne voulez pas être enregistré, ouais, peut-être enregistré, mais surtout pas diffusé, votre voix. Alors, si vous pouvez, c'est juste là sur le coin, je vais laisser un stylo à côté, si vous pouvez...